j'ai poursuivi ce travail un petit peu d'introduction à Derrida, qui est un travail de lecture, hein, finalement. Et ce soir, j'ai fait un travail sur le don la dernière fois, et je voulais faire un travail cette fois-ci sur le pardon. Ça me semble une bonne entame aussi pour, à la fois parce que c'est un enjeu en soi, et en même temps parce que ça permet finalement d'aborder un certain nombre de caractéristiques philosophiques propres à Derrida. Alors, le pardon, il y a un lien, bien sûr, hein, entre le don et le pardon, il y a un lien étymologique, déjà. Mais c'est un lien qui est complexe. Disons que le sens premier, certainement, de pardon, c'est pardon de la vie. Hein. C'est la vie qu'on donne à la personne qui était condamnée à mort et à qui on accorde la vie, hein, pour don de la vie. Bon. Alors, je dis ça parce que je voudrais réfléchir à cette question du pardon à partir de Derrida, c'est-à-dire en même temps à partir de la réflexion d'un autre philosophe, à savoir Jean Kelevitch, puisque Derrida va se livrer à un travail d'analyse de la pensée de Jean Kelevitch sur la question du pardon, et va se livrer à un travail finalement qui est justement un travail de déconstruction. Déconstruction, c'est ce concept propre à Derrida. Alors Jean Kelevitch a écrit deux textes importants sur le pardon. Un texte, comment dire ça, de type plus universitaire, qui s'intitule Le pardon, proprement philosophique, vraiment. Il s'intitule Le pardon. Et puis il a écrit une série de textes qui ont été rassemblés ensuite dans un livre qui s'intitule L'imprescriptible de points pardonnés, point d'interrogation, dans l'honneur et la dignité. Ça, c'est un tout petit recueil de textes, hein, qui est sorti chez Point, il me semble. Qui se lit sans difficulté aucune. Et qui est un texte très fort. Et alors, ces textes, finalement, interviennent dans le cadre d'une polémique et d'un débat qui avait eu lieu au début des années 60, autour de l'année 64 en particulier. Parce que ce qui faisait débat, c'était la possibilité de prescrire, finalement, un certain nombre de crimes nazis, de crimes envers les juifs. Et bon, ça a donné lieu, ce débat, finalement, à la mise en place d'une loi, hein, en France, en 1964, déclarant les crimes contre l'humanité imprescriptibles. Bon. Mais ça n'allait pas du tout de soi. Et Jean Kelevitch, dans ce livre, dans l'une de ces trois interventions là, rassemblées sous ce titre, hein, l'imprescriptible pardonné, dans l'honneur et la dignité, là c'est un texte, on va dire, extrêmement vif, hein, extrêmement polémique, extrêmement, dans lequel il y a une colère énorme. Et je voulais justement en lire un extrait, hein, que j'ai reproduit. Voilà ce que dit Jean Kelevitch. Le pardon, point d'exclamation. Mais nous ont-ils jamais demandé pardon? C'est la détresse et c'est la déréliction du coupable qui seul donnerait un sens et une raison d'être au pardon. Quand le coupable est gros, est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, le pardon est une sinistre plaisanterie. Non, le pardon n'est pas fait pour les pauvres et pour leur truie. Le pardon est mort dans les camps de la mort. Notre horreur pour ce que l'entendement à proprement parler ne peut concevoir étoufferait la pitié dès sa naissance, si l'accusé pouvait nous faire pitié. Voilà, texte dur, hein, avec cette formule qui reste célèbre, le pardon est mort dans les camps de la mort. Bon.
Sur le pardon chez Jean Kelevitch, alors il est réécoutable sur le
Ah, d'accord. Oui, c'est bien, je savais pas, je sais pas quoi. Non, c'est pas grave, je te remercie. Bon. Alors, je voudrais faire un travail un petit peu autour du travail que Derrida fait autour de ce texte, finalement. En centrant sur ce passage que je viens de citer. Bon, Derrida, il repère une aporie. Bon. Autour de la question, si l'on peut demander le pardon à plus d'un. À plus d'un. C'est-à-dire si on peut demander le pardon à un groupe, à une collectivité, à une communauté. Et du coup, peut-être à une institution, à un État, etc. Donc, autrement dit, hein, est-il possible de demander ou d'accorder le pardon à un autre que l'autre singulier, hein, pour un tort ou un crime singulier? Le pardon, au fond, tel qu'on l'entend, normalement, on a une entente commune du pardon, il est possible que s'il est demandé ou accordé, seul à seul, c'est-à-dire sans médiation, donc entre celui qui a commis le mal, irréparable, et celui qui l'a subi. Celui qui l'a subi, parce qu'il est le seul à pouvoir entendre, à pouvoir recevoir cette demande de pardon. Seul donc à pouvoir l'accorder ou la refuser. Ce qui du coup, va dire Derrida, dessine la scène d'une solitude à deux. Et donc ça priverait de sens, c'est-à-dire d'authenticité aussi bien, tout pardon demandé collectivement, c'est-à-dire tout pardon demandé par une église, par une corporation. Mais aussi par un ensemble de victimes anonymes, parfois mortes, évidemment, ou à leurs représentants, leurs descendants, leurs survivants. Alors cette solitude singulière, voire cette espèce de secret du pardon, hein, à Derrida à peu près. Eh bien, ça en ferait pour le coup une expérience qui serait étrangère à l'ordre du droit, à la logique du châtiment ou de la peine, hein, c'est-à-dire de l'institution publique, à la logique du calcul judiciaire. Justement, c'est une logique publique, collective. Mais aussi parce que là-dedans, hein, il y a cette idée d'un calcul judiciaire. Hein. On va peser, hein, équilibrer cette image de la balance, évidemment, hein, dans la figure de la justice instituée. Bon, donc, le pardon constitue un défi, au fond, hein, à la logique pénale. Bien. Donc on peut dire que le pardon, il faut dire que le pardon est étranger à tout l'espace juridique. Alors, il est étranger à tout espace juridique, et il est même, il faut assumer le fait qu'il le soit même à cet espace qui a inscrit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Donc en France, en 64. Et de ce point de vue, Il faut bien distinguer, du coup, hein, l'imprescriptible et l'impardonnable. Ils sont irréductibles l'un à l'autre. L'imprescriptible relève d'une logique juridique. L'impardonnable excède, défie, hein, toute logique juridique. Voilà. Toute institution publique, hein, toute institution judiciaire publique. Bien.
Pas de conjurer, mais d'assouplir la notion d'impardonnable. Tandis que là, j'avais lu ça, que les jurés étaient en fait des quelque chose de nécessaire pour réguler cette notion morale, pénale.
C'est-à-dire, on peut penser à une forme de régulation, effectivement. C'est vrai que la justice, finalement, fonctionne selon un modèle qui soit celui du rétablissement d'un équilibre, hein, mais qui suppose quand même qu'on mesure, c'est-à-dire qu'on mesure les peines, qu'on mesure les torts subis, et que du coup, à partir de cette mesure, on pense une compensation, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a en tout cas au moins cette fonction d'arrêter la plainte. Hein, et d'arrêter la logique du tort, hein, pour qu'on sorte d'une logique qui pourrait être celle de la vengeance, par exemple. Je vais y revenir. Mais justement, la question du pardon est celle, puisque je suis plutôt parti de celle-ci, en un sens, de l'impardonnable, c'est ce qui excède infiniment la possibilité d'une mesure, d'une réparation. Ouais. Donc, cet infini qu'appelle la dimension de l'impardonnable, finalement, il est irrésorbable dans une mesure commune qui est celle de la justice commune, quoi. Ah, alors, je vais revenir là-dessus. Oui, peut-être c'est une. On ne parle pas de pardon en justice. On ne parle pas de pardon. Enfin, on parle pas. Oui, alors. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire attention peut-être à l'idée de justice. Hein. L'idée de justice ici comme justice instituée, quoi. Hein. Comme justice, comme système juridique. Avec un code, etc., écrit. Voilà. Voilà. Mais je dirais pas qu'elle est déshumanisée. Peut-être. Alors, je vais y venir, justement. Allez, codifié. Peut-être que la question du pardon, justement, ce à quoi elle touche, c'est si elle a, comment dire, c'est une limite propre à l'institution judiciaire qui, j'ai envie de dire, comment, loin d'être déshumanisée et humaine, trop humaine, quoi. Alors que quand il y a l'impardonnable, ce à quoi on touche, justement, c'est peut-être à quelque chose qui passe la limite de l'humain, quoi. Et là-dessus, il y a quelque chose qui, dans la logique judiciaire, finalement, il y a quelque chose qui peut pas être atteint de cette vérité, de ce qui passe l'humain, quoi. Voilà. Mais je vais essayer d'y revenir pour. Bon, ça s'entend, hein, dans l'extrait que j'ai choisi de Jean Kélévitch, hein, il est clair que pour Jean Kélévitch, hein, il ne s'agit pas de pardonner. Il refuse le pardon, absolument, pour un certain nombre de raisons qu'il avance. Il considère qu'il n'est pas temps de pardonner. Il n'est pas temps de pardonner. Et ce que craint, dans son texte, au fond, on voit bien qu'une des choses que craint Jean Kélévitch, c'est que derrière ce pardon, hein, ce qui se profile, c'est l'oubli, que ce soit l'oubli. Qu'on avance le motif du pardon, finalement, pour s'autoriser à oublier. Voilà. Et lui, il insiste beaucoup, Jean Kélévitch, sur le fait que Le pardon, c'est pas l'oubli. Le pardon ne doit pas engendrer l'oubli. Voilà. Le pardon ne doit surtout pas devenir l'oubli, même. Et même Jean Kilevitch a des arguments, un argument pour dire au fond que surtout il faut dire non au pardon, hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Et, bon, et c'est là qu'il y a quelque chose peut-être déjà de. Bon, Jean Kilevitch parle au fond d'un devoir qui est un devoir de non-pardon. Du coup, il ne faut pas pardonner. Il ne faut pas pardonner au nom des victimes. Donc ce pardon-là est impossible. Et il ne faut pas qu'il soit possible. Il ne faut pas, il faut ne pas pardonner. Alors, le pardon est impossible, pour Jean Kilevitch, pour ce qui s'est passé dans les camps de la mort. Dans les camps de la mort, le pardon est mort. La possibilité même du pardon est morte. Elle est morte dans les camps de la mort. Alors, il y a deux, au fond, dans le texte que j'ai lu de Jean Kilevitch, il y a deux arguments pour refuser le pardon, qui sont des arguments classiques en réalité, et forts, très forts, très intéressants. Et c'est sur ces deux arguments que Derrida va revenir, pour aller jusqu'à, comment dire, les mettre en cause, sur un mode paradoxal. Premier argument, c'est que, mais on ne peut pas envisager la possibilité d'accorder le pardon, enfin on peut envisager la possibilité d'accorder le pardon que s'il est demandé. Que dit Jean Kilevitch. Est-ce qu'on nous a seulement demandé pardon? Pardonner? Mais... Pardonner à ces Allemands là qui jouissent du miracle économique, tout ça. Ils ont même rien demandé. J'ai jamais reçu une lettre, il a des propos comme ça. En 35 ans, j'ai encore jamais reçu une lettre. Me demandant pardon à moi, Jean Kilevitch, par exemple. Ou demandant pardon aux Juifs. Bien, donc l'idée forte qu'il y a sous cette affirmation de Jean Kilevitch, c'est que donc on ne peut pardonner, envisager de pardonner qu'à quelqu'un qui avoue sa faute, qui se repent, qui me demande pardon. Alors, non seulement ça n'a pas été fait du point de Jean Kilevitch, mais en plus. Qui pourra demander pardon pour ces crimes-là? Et à qui, en plus? Il y a ce problème-là aussi, évidemment. Problème complexe, quoi. Puis un deuxième grand argument, lequel on est déjà passé, au fond, c'est que quand le crime est trop grave, justement, quand il franchit la limite de l'humain. Bien ici, il n'est plus question de pardonner. Donc le pardon, en somme, devrait rester entre hommes, à la mesure de l'humain. Bon. Alors c'est ces axiomes, en un sens, que Derrida veut mettre en cause. Bon. Je veux revenir à cette question de la mesure, la mesure de l'humain. Justement, à travers cette question que vous avez soulevée du juré, la question de la punition. C'est tout le problème de la proportionnalité, finalement, du punissable et du pardonnable, quoi. Bon, l'idée de la justice, c'est vrai, classiquement, est de mesurer effectivement les torts, quoi. Et du coup, de compenser, d'une façon ou d'une autre.
En l'occurrence, le procès de Nuremberg, qui a déterminé les peines, les capitales, les gens qui ont
Voilà. Bon, alors, bon, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il faut une justice. Hein, tout le problème, on voit bien qu'il faut une justice. Hein. Oui. Non, mais ce qui est comment dire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est effectivement de voir que. Il y a un argument au fond chez Jean Kelevitch hein, qui dit que ce tort-là est impardonnable. Pourquoi ? Parce qu'il est impunissable. Voilà. Justement, à la fois, il fallait le procès de Nuremberg, et en même temps, cette punition. Cette réparation entre guillemets, enfin, c'est abject au fond, c'est obscène de parler d'une compensation, de la réparation quelconque d'un tort, quoi. Ici, la justice a affaire à quelque chose qui est un hors mesure, quoi. Voilà. Or, tout le travail de la justice, c'est justement d'échapper, on sait bien, par exemple, à la logique de la vengeance, quoi. Hein, la logique de la vengeance, c'est simplement, elle met en avant. La passion individuelle, et un tort, finalement, qui est porté à l'infini, alors que tout de même, la justice a justement pour but de situer un tort parmi la diversité des torts et dans un équilibre social, un équilibre des relations humaines, qu'il va falloir rétablir, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir compenser, hein, et compenser, mesurer le tort subi, quoi. Et arrêter, hein, cette course infinie, au fond, qui est celle de la vengeance, qui est celle de la logique de la vendetta, tout ça, quoi. Bon, alors, toute la question de ces crimes qui passent la mesure de l'humain fait problème au regard de la logique judiciaire, justement. Hein. Justement, parce que ça passe la mesure absolument d'un tort qu'on pourrait même évaluer. Voilà. Et c'est pour ça que c'est impardonnable pour Jean Kelevitch. Alors, bon, alors. Non, c'est-à-dire que. Encore une fois, il y a deux textes. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est chez Jean Kelevitch, il y a deux textes. Hein, il y a un texte qui s'intitule Le Pardon, donc il y a un texte qui est vraiment une étude philosophique. Hein, et puis, il y a cette intervention, enfin, cette série d'interventions hein, qui ont été republiées après, qui étaient parues, enfin, discours et articles, en fait, qui ont été publiés, groupés ensemble après, quoi. Et cette série d'intervention est polémique, c'est un cri, hein, véritablement. Hein. C'est une prise de position en plus, hein, évidemment politique, quoi. Bon. Alors justement, puisque j'évoque ces deux textes, ce qui est intéressant, c'est que. On pourrait dire, et c'est ce que repère Derrida, justement, qu'en somme, si on travaille avec ces deux textes, c'est comme si il y avait déjà une déconstruction à l'œuvre dans la réflexion de Jean Kelevitch, quoi. Hein, déconstruction qu'exhibe, hein, ou que poursuit Derrida. Hein, parce que justement, dans ce texte, Le Pardon, Jean Kelevitch explique que ce qu'il dégage à travers cette analyse de cette notion du pardon, c'est ce qu'il appelle une éthique hyperbolique. Une éthique hyperbolique. Alors, et au regard de cette éthique hyperbolique, le pardon est le commandement suprême. Voilà. Le pardon est le commandement suprême. Il y a une logique de l'infini, finalement, au contraire, hein, dans l'éthique du pardon. On passe la mesure, justement, dans cette éthique-là. C'est une logique de l'excès. Et il a cette idée, il en arrive à cette position qui est que, à la fois, le pardon est le commandement suprême, et d'autre part, le mal apparaît toujours au-delà. Mais on peut dire, Hein, c'est comment dire, c'est une espèce d'opposition elle-même paradoxale, hein, c'est-à-dire ce commandement suprême apparaît au-delà du mal et le mal apparaît au-delà. Hein. Une très belle formule d'ailleurs. Le pardon, voilà, le pardon est plus fort que le mal et le mal plus fort que le pardon. Voilà ce que disait Jean Kelevitch. Pardon plus fort que le mal et le mal plus fort que le pardon. Bon. Alors, qu'est-ce qui se profile ici? C'est l'idée qu'en fait, c'est un retournement hein, de perspective, mais sans l'être. Il y a dans le pardon une force, un désir, un élan, un appel, qui exige que le pardon soit accordé, s'il peut l'être, même à quelqu'un qui ne le demande pas. Qui ne se repent pas, qui ne se confesse pas, qui n'avoue pas, qui ne s'améliore pas. Et pourquoi ça doit être fait même si on ne se repent pas? Mais parce qu'il s'agit de passer par-delà toute économie identificatoire, finalement. Oui. C'est-à-dire... Oui, toute économie identificatoire. Voilà. Qu'est-ce que ce serait que le pardon, finalement, qui serait un pardon sous condition qu'on reconnaisse ses fautes? Ce serait un pardon sous condition. Et en fait, on ne serait déjà plus dans la souveraineté du pardon. Voilà. Donc cette logique hyperbolique, hein, dit Jean Kelevitch, du pardon, elle commanderait en somme d'accorder le pardon là où celui-ci n'est ni demandé ni mérité. Et même pour le pire mal radical. Alors, Derrida va dire du coup que le pardon ne prend son sens, hein, s'il faut maintenir ce terme, bon, enfin, il ne prend son sens, mettons, entre guillemets, ne trouve sa possibilité de pardon que là où il est appelé à faire l'impossible. Et à pardonner l'impardonnable. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, on a une logique très proche hein, de celle que j'avais essayé de dégager à propos du don. Hein. Mais c'est que pardonner le pardonnable, hein, pardonner l'excusable, le véniel, pardonner ce qu'on peut toujours pardonner, ben, c'est pas pardonner. C'est-à-dire que le pardon commence là où il paraît finir, là où il paraît impossible. Donc le pardon, hein, s'il y en a, eh bien, il ne peut pardonner que l'inexpiable, que l'impardonnable. Voilà. Bon, voilà, je voulais m'arrêter là. Puis ensuite on discute, quoi.
Peut-être que ce du pardon, si Jean Kelevitch, elle se réfère à quelque chose de terrible, d'un point de vue. C'est-à-dire que le rapport à l'individu, le rapport collectif à la chose. Bon. Et si on ramène un drame d'individu à individu, bon, si on ramène à des choses qui sont beaucoup plus heureusement et malheureusement ça continue quoi, ça continue. Ça renvoie à chacun la question, quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait être du domaine du possible, qu'est-ce que je suis capable de pardonner?
Oui. Qu'est-ce que je suis capable de pardonner? Oui, alors. Mais qu'est-ce que je suis capable de pardonner? Mais c'est une question, enfin, c'est une question impossible, hein, justement. Voilà, c'est tout. Sur l'exemple que tu prends, par exemple, c'est justement, on voit bien que, mais on, voilà, on voit bien qu'on est confronté à l'impossible, mais que, en même temps, il faut se mesurer à cet impossible-là, quoi. Voilà. Et c'est que dans, c'est comme sur le don, finalement, c'est que, là encore, enfin, c'est que dans l'endurance de cette impossibilité qu'un pardon est possible. De même que c'est que dans l'endurance de l'impossibilité du don qu'il peut, s'il y en a, y avoir don. Mais là aussi, donc, alors, qu'est-ce que je serais capable de pardonner? On sait bien que c'est pas une, c'est une question qui nous, qu'on peut se poser peut-être parfois, comme ça. Mais qui est une question qui, c'est une question inquiète, c'est pas une question avec réponse. Hein. C'est pas, on va pas, c'est bien qu'on va pas pouvoir aligner derrière une forme de prévision, quoi, tenable, une forme de, on va pas pouvoir avancer finalement. De, c'est une, le cas de véritable pardon, c'est ça? Ah, mais ça me semble pas du tout les mêmes logiques. Ah, mais attends, qu'est-ce qu'on appelle un véritable pardon? Attention, enfin.
J'ai demandé à quelle époque ça avait été écrit. Parce qu'il y a eu une évolution. C'était complètement
inoccupé. C'est 64, je crois. Que c'est,
oui.
Autour de. Oui, des,
pas,
non, 64.
Oui,
c'est, le texte que vous avez cité doit citer août 63.
Comme concentration, on ne parlait même pas de la Shoah. Ça n'existait pas. On ne parlait même pas de pardon. C'était complètement occulté dans l'inconscient. Et c'est après qu'il y a eu une lente évolution. C'est pas toujours des rescapés, c'est l'identité. L'Église est une entité représentée par le patriarche qui a demandé le pardon au peuple juif. C'est qui le peuple juif? Les juifs de la diaspora, les juifs israéliens, les juifs qui. C'était en fait de compte une notion assez irréelle. Je pense que c'est, on aborde le problème et de la morale et de la métaphysique. De ne pas accorder le pardon, c'est-à-dire c'est encore entretenir un sentiment de haine imprescriptible. De ne pas de demander pardon, de ne pas accepter le pardon de qui a commis la faute, des nazis. C'était qui les nazis? On dit qu'ils ont disparu.
Je n'ai pas demandé pardon de l'autre, je suis soi-même pardonné.
Mais bon, peut-être là, quand, des petites, quelques précisions qu'on va faire, c'est-à-dire que bon, quand vous disiez, vous rappelez cette phrase-là, hein, garde, enfin n'oublie pas, hein, garder, souviens-toi. Bon, justement, hein, la logique du pardon, c'est pas une logique de l'oubli. Justement, normalement, ça doit surtout pas être confondu, quoi. Hein.
De me venger, de humaine.
Non, mais Jean-Philippe, il n'appelle pas la vengeance.
Il refuse le pardon.
Oui, il va, parce qu'il va, il va en 64, il part du principe que si on n'a pas de pardon, même si l'autre ne l'a pas demandé, il est un acte de d'oubli.
Ben non, c'est pour ça que j'ai dit avec le fronton, garde et souviens-toi.
Oui, mais c'est pas l'appel à la vengeance non plus.
Non.
Le devoir de mémoire, ce qu'on peut appeler le devoir de mémoire, enfin, finalement, on n'en parle pas comme ça, le devoir de mémoire, c'est pour ne pas oublier, mais ce n'est pas en soi un appel à se venger.
Pardon.
Donc, on ne peut plus ne pas pardonner, parce que c'est impardonnable, je ne sais rien, parce qu'il y a un deuil impossible quelque part. Je ne sais pas, on ne peut pas faire ce deuil-là, c'est un deuil impossible. Où ça joue pas à ce niveau-là.
Mais c'est aussi dans une dimension de temps, ça voudrait dire que quelque chose qui a été fait il y a des milliers d'années, on ne va pas le pardonner. C'est entretenir, je regrette peut-être, entretenir le sentiment de mort envers l'autre.
Non, mais peut-être, justement, c'est pour ça que je. Effectivement, ce qui est intéressant. Enfin, un des points qui sont intéressants dans ce que vous soulevez, c'est.
Pardon mentalement, je sais
pas. Non, mais justement, c'est que on voit bien que ce qui se joue dans la question du pardon, c'est quand même une façon de temporaliser l'acte de pardon. Oui, mais c'est pas continuer à vivre. On peut peut-être pas dire ça. C'est-à-dire que en tout cas, le pardon est effectivement don de la vie, quoi. Mais effectivement, le pardon en même temps doit être extérieur à un temps, à un temps qui serait simplement un temps de la montre, un temps d'une histoire qui se continuerait comme ça. Il y a quelque chose qui est suspendu à la parole du pardon, quoi. Et effectivement, ça peut durer peut-être très longtemps.
Avoir un maintien social, un équilibre humain, on va pardonner. C'est faux.
Non, mais là, c'est pas. Oui, mais justement, ça serait. C'est pas du pardon en ce cas. Hein? Là, c'est pas du pardon. Et l'idée.
Dans l'inconscient, il y a une notion qui ne peut pas. L'impardonnable restera.
Alors, mais en ce sens, si vous voulez, Derrida dit pas autre chose. Il dit qu'il y a de possibilités du pardon que parce qu'il y a impossibilité du pardon. Oui, il y a de pardonnable que l'impardonnable. Donc, vous voyez ce que je veux dire, mais il ne s'agit pas, si vous voulez, de rejeter, là encore, l'un des termes du paradoxe, s'enfermer en disant, c'est impardonnable, donc du coup, on ne peut pas du tout pardonner, et du coup, simplement, on fait du refoulement, quoi. Mais c'est pas faux, hein. C'est impardonnable et alors je sais pas si on fait avec. Enfin, on fait avec on fait avec, oui. Si. Mais en tout cas, c'est cette dimension de l'impardonnable, vous voyez, justement, qui reste vive, absolument vive. Vous voyez bien, parce que si vous parlez là d'impardonnable, vous.
Donc, ça veut dire que soi-même, on est en train de revendiquer une existence. très compliqué tout ça. Hein. Je veux dire que c'est bon. Donc l'histoire du pardon, il y a tout ça qui joue avant et tout ça, c'est vraiment des prises de position très politiques, si on est dans ce cas de figure historique. Des prises de position politiques qui font que cette reconnaissance permet aux victimes issues aux générations qui sont arrivées de ne pas être dans la haine, de ne pas d'enlever ces sentiments de vengeance. Parce qu'effectivement, il n'y a plus à faire reconnaître qu'on a subi quelque chose d'impardonnable. Il y a des choses qui se jouent à ce niveau-là.
Oui, il me semble, dans ce que tu dis, parce que c'est encore peut-être un enjeu juste à côté, mais très important, c'est déjà reconnaître l'impardonnable, quoi. C'est pas là ce que tu dis, c'est pas la reconnaissance abolit pas le caractère impardonnable du crime contre les Arméniens, mais voilà, déjà reconnaître cette dimension de pas de grâce.
Il y a toute la moitié de la Turquie où il y avait des Arméniens, ils ont été massacrés.
Ben oui, mais c'est pas une volonté de les éradiquer de la terre, alors que le nazisme, c'était éradiquer la race juive de la terre.
On parle du génocide punique, on parle du génocide carthaginois, on parle de... Et ça, c'est des génocides reconnus, et c'est pas pour autant qu'on...
Oui, mais est-ce qu'il y avait cette dimension d'éradiquer la race?
Oui, les éradiquer, oui, mais en tout cas, les éradiquer du... Voilà. Par la mort, hein.
Les Juifs étaient déjà allés par le monde, alors que les Arméniens étaient sur leur territoire, il n'y avait pas eu encore de diaspora.
Mais on dévie un peu, là, mais bon, c'est un...
Je veux juste dire par là qu'il n'y avait pas eu de diaspora, donc, je veux dire, il y avait tout de suite les machins au Rwanda, il n'y a pas de tout de suite...
C'est la notion de génocide, par contre, qu'elle est assez étroite comme notion.
Oui, mais non, mais cela dit, elle s'applique tout à fait au génocide arménien, en l'occurrence. Quand même, il y a eu volonté.
C'est une dimension politique, moi, je pense.
Donc c'est pour ça que je reviens. C'est je disais juste avant.
Les massacres des peuples, ça existe. Et les nègres contre les puniques, les ici, les là. On a insisté que...
Non, mais on parle de génocide. Les historiens parlent de génocide. Oui, carte chinois, punique, etc.
Je pense pas.
Ah, je vous assure qu'ils parlent de génocide.
Maintenant,
c'était juste une aparté pour en venir au débat là. Moi, ce que j'en perçois dans ce que j'en entends, en fait, c'est ça m'a évoqué un autre sujet. C'était essayer de comprendre, en fait, quelque part il y a ça, essayer de comprendre comment, là en l'occurrence, on s'est penché sur le nazisme. Hein, c'est un exemple dans l'histoire, un exemple terrible. Essayer de comprendre comment le nazisme est possible. Ça rejoint un peu ça. Au travers, non pas de son origine, mais quelque part au travers de sa conclusion, qui voudrait une forme de pardon. Et essayer d'approcher le pardon tel que c'est défini là, c'est aussi essayer de comprendre comment c'est né.
Oui, alors je ne sais pas, parce que justement, si on est dans une logique, si on est une pensée de l'impossible ici,
mais la naissance est impossible quelque part.
Et voilà, c'est ça.
Et pourtant, elle a eu lieu.
Donc,
Oui, oui, mais...
Elle paraît... Ah, mais c'est une idéologie, le nazisme.
Oui, mais elle paraît impossible, humainement.
À l'origine, c'était une idéologie qui a dévié, hein.
Mais bon, mais ça, c'est un autre enjeu. Non, c'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose qui... Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, être possible? Le problème, à un moment, c'est de ne pas réduire un certain nombre d'actes simplement à un plan qui serait un plan causal, quoi. D'enchaînement causal. Hein. Parce que du coup, on leur retire... Comment on dit? Oui, c'est-à-dire que du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on éradique, on fait disparaître en ce cas-là la faute. Hein. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que effectivement, il y a une dimension au fond qu'on peut pas réduire à la causalité dans le mal. Hein, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la question du pardon. Voilà. Donc on peut les historiens, ça me semble intéressant parce que effectivement c'est tout un débat, hein, comment penser du coup penser cet événement. Alors c'est les historiens qui essaient de penser, je pense à Enzo Traverso, ça me semble intéressant comme travail aujourd'hui, des conditions de possible, enfin oui, une espèce de généalogie, des conditions de possibilité, mais ce qui me semble intéressant dans sa démarche, outre que ces conditions de possibilité conditions de possibilité qui dégagent sont originales et je crois très fortes, mais c'est que du coup ce sont simplement des conditions de possibilité et ça ne vient pas réduire finalement à un enchaînement finalement qui serait mécanique. Hein, ça, qui s'est produit. Quoi. Ouais, il me semble qu'ici il faut laisser sa place entière à un type d'événement, à un type de temporalité aussi, qui est irréductible finalement au type de temporalité qu'on met en œuvre en général en histoire justement. Ouais, ce que je veux dire, c'est, par exemple, la logique du pardon est inassimilable simplement à une logique qui serait celle de la mémoire et de l'oubli, quoi. Et pareil pour le mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à la fois, on peut penser à ça en condition de possibilité, en même temps, il y a une dimension, un moment sur laquelle, je crois, l'histoire vient buter. Quoi, vient. Mais je ne sais pas, peut-être que la théologie pense quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue, en somme, non théologique. C'est de même...
Il y a effectivement l'angle qu'on a envisagé, c'est entre guillemets il est un peu social. Il y a la partie pardonnante et la partie pardonnée telle qu'on l'a vu là. Effectivement, au travers de ce que disait monsieur, le déversement dans l'inconscient, en fait il y a un autre rôle dans le pardon qui est un rôle de soi-même vers soi-même. Je ne fais pas que donner quand je pardonne, mais je me libère aussi quelque part.
Oui.
C'est un angle plus, entre guillemets, plus psychologique, plus personnel, plus de moi vers moi.
Mais ça se produit, mais faut bien dire qu'en même temps, cette logique qui est celle d'une économie de l'inconscient finalement, d'une économie psychique. Avec la possibilité effectivement de se libérer d'un poids. Je ne sais pas dans quelle mesure on s'en libère d'ailleurs, mais il faut quand même dire que ce sont des logiques qui sont absolument hétérogènes à la logique du pardon. Justement parce qu'on est dans un pardon ici qui serait conditionné, qui serait même finalement intéressé. Intéressé à retrouver une forme de stabilité psychologique, intéressé à... Et ça, c'est hétérogène, pardon.
Et pour pousser dans la science, c'est pas la victime qui pardonne parce qu'elle n'est plus là.
Mais c'est important, bien sûr, là, tout à l'heure. C'est... Voilà. À qui pardonne-t-on? Et bien sûr, ça, c'est la vérité là-dessus.
C'est la possibilité du pardon.
Oui, mais ce qu'un... non, mais en même temps, parce qu'il faut bien, c'est ça. Hein, là encore, il faut tenir hein, le paradoxe. Hein. C'est cette impossibilité hein, qui, en même temps, en fait la possibilité. Voilà, c'est seulement l'endurance, cette impossibilité qui, c'est seulement à hauteur de cette impossibilité qu'il y a pardon possible. Mais justement, c'est intéressant, c'était par rapport à ce que vous disiez sur la question du temps, c'est-à-dire que au-delà de la question de savoir s'il fallait le faire, s'il fallait le pas faire, ce qui est certain, c'est que l'État français, en la personne de Jacques Chirac, s'est reconnu une responsabilité, donc finalement un rapport, on peut dire, de présence à quelque chose pourtant qui s'était passé 50 ans plus tôt. Quoi. Donc c'est bien dire qu'il y a quelque chose qui non seulement ne doit pas s'oublier dans ce qui relève de l'impardonnable, mais en plus que il y a une dimension du temps qui est engagée, il y a une forme de temporalisation qu'engage ce qui relève de l'impardonnable et ce qui va peut-être l'acte de pardon, finalement, qui est réductible simplement à, oui, à un temps qui est celui de la montre, à celui simplement l'écoulement des jours et des années, quoi. Là, ça a duré 50 ans, quoi. Mais à 50 ans, il est clair que quand Jacques Chirac reconnut que l'État français avait une responsabilité, il le reconnaissait en tant que président de la République française, donc comme étant engagé par cette responsabilité de l'État vichysois. Quoi. Donc, il y a bien un suspens du temps. Quoi. Alors, vous disiez, mais ça peut durer 100 ans, 1000 ans. Oui, c'est terrible. Mais en même temps, c'est ça qui est engagé. Voilà. Peut-être c'est comme une promesse, je ne sais pas. Enfin, je dis peut-être. Non, mais vous voyez, on a... Mais non, mais j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire. Mais
après quoi ça vient? Pourquoi vous les ressentez d'une manière aussi bon, ben ça passe, ça passe, et qu'il y a déjà tellement de choses reconnaissantes par ailleurs, ça, que ça c'était un peu bon, l'été qu'il n'est pas fait, il y avait déjà des choses beaucoup plus.
Oui, mais je crois que dans ce que vous dites en même temps, parce que je crois entendre que vous dites que finalement il y a une dimension de l'impardonnable, quoi. Qui fait que simplement la demande de pardon, ben finalement sur les humains n'est que des mots, et que bon, ben, par rapport aux crimes, à ces crimes impardonnables, ces mots ne pèsent que le poids de mots, quoi. En même temps, ces crimes, à partir du moment où on les vit, où on les nomme pour soi, pour les autres, justement, sous ce vocable, avec ces mots qui sont ceux de l'impardonnable, c'est bien qu'on engage en même temps un rapport à la question du pardon, quoi. Peut-être que le pardon, parfois, ne peut être qu'un mot, quoi. Mais, bon, toute la question, hein, effectivement. Mais en même temps, c'est de toute façon à des mots qu'on sera suspendu, quoi. Voilà. Bon, nous sommes des êtres de parole, et peut-être ici, éminemment, quoi, justement, dans cette question de l'impardonnable et du pardon, quoi.
Pardonner, il a tué mon enfant, déjà. Je sais pas. Non, je me rappelle qu'une personne sortant du tribunal, je ne peux pas lui pardonner, peut-être que Dieu lui pardonne.
Ouais, moi, je crois que la question de Dieu est intéressante là-dedans, parce qu'effectivement, traditionnellement, que Dieu me pardonne. Alors, quel rôle on fait jouer à Dieu là-dedans? Je pense que. Hein?
On se dérobe.
Je sais pas.
Dieu monothéiste, quand même.
Un Dieu monothéiste, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'il n'y a pas. Par exemple, la notion de pardon n'existe pas dans l'engrais.
Pourquoi les idoles approchent? Il y a des crimes, des morales judéo-musulmanes.
Non, mais je pense que c'est pas faux. Voilà. Je pense même que c'est très juste. Non, mais.
La question de justice vue par les peuples primitifs, elle est complètement autre. Ils n'ont pas une logique, il s'est passé ça, on va chercher ça et on va juger un coupable. La logique,
non, c'est moi,
non, mais c'est.
Je vais pas aller plus loin, mais.
Qu'ils absolvent, je ne sais pas, le coupable en disant il a agi, mais c'est pas lui qui a agi. C'est un autre qui était en lui à ce moment-là. Donc ne le tuez pas, c'est pas lui qui a agi.
En présent.
Non, mais en tout cas, ce pourquoi le pardon intervient effectivement dans le cadre des religions monothéistes, au fond. Et pourquoi on invoque Dieu qui effectivement est le Dieu un, c'est certainement quand même parce que justement, il n'y a que Dieu pour témoigner. Au fond, ce qu'on convoque ici, c'est la figure de Dieu comme témoin hors du temps. Hein, du temps justement de la montre de ce temps qui s'écoule quoi. Et il faut pour pardonner, alors là ce serait tout une autre réflexion, mais il faut pour pardonner à la fois, j'ai parlé de la solitude, hein, pour qu'il y ait pardon il y a une forme de solitude à deux, et en même temps il faut un tiers quoi, effectivement quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne du pardon, témoigne aussi et en l'occurrence pour deux témoins. Il me semble qu'on invoque Dieu comme finalement témoin de la victime absente, quoi. Elle est nécessairement absente parce que victime, quoi. Et cette espèce d'être par-delà le temps, cette espèce de regard et de conscience. Et il me semble que c'est ça qu'on invoque.
Donc c'est l'impuissance de l'homme, quoi. On recourt à une notion suprême parce qu'on n'arrive pas à son problème.
Non, mais on peut penser, hein, là, au fond, Jacques Chirac, finalement, a pensé une forme de continuité, et même, de non-appartenance au temps, finalement, de l'État français, quoi. Hein, c'est ça, hein, c'est, finalement, si l'État était responsable aujourd'hui, et s'il pouvait demander pardon, c'est bien parce que, finalement... Oui, parce qu'il pensait justement à une discontinuité.
Le temps n'est-il pas proportionnel à la faute, justement? On a énormément de mal à accuser quand même ne serait-ce qu'une compréhension minimale de ce qui s'est passé, quoi. Ça finit pas comme ça, quoi. Et moi, je pense que ce temps, il est proportionnel à la faute. Enfin, si tant est que ce soit commensurable, mais...
Bon, moi, je pense que non, ça l'est pas.
Ça l'est pas, évidemment, ça l'est pas.
C'est toujours déséquilibré.
C'est même pas une
par rapport à cette notion gigantesque de...
Oui, une asymétrie radicale.
À trois mots.
Ouais, c'est...
On est dans l'infiniment grand et dans un réduit. On parle de millions, mais on peut déjà un million, c'est beaucoup.
Non, mais la quantité, elle joue même pas.
Il n'y a pas d'équilibre. Tout à l'heure, vous parliez de rétablir un équilibre. On est à l'échelle humaine, là c'est déshumanisé, on est dans un monde. En plus, c'était programmé. En plus, il y avait un ordonnancement programmé.
C'est l'homme incant.
les effacer de la surface de la terre. Alors que les Turcs n'ont jamais dit qu'il fallait effacer les Arméniens de la surface de la terre.
Oui, mais ça ne me semble pas très intéressant de mettre en, comment dire, de mettre en rivalité, en concurrence, les différents génocides.
On la ressent à
Hitler aussi a dit, regardez, les Turcs, ils ont massacré les Arméniens, personne n'a bougé. C'est pas parce qu'on va tuer quelques Juifs que le monde va se
faire. Ah oui, mais il a massacré personne ne bougera. Il avait fait un bon pronostic, il était gagnant, il a joué le cheval gagnant.
Bon.
Au Rwanda, il y a bien eu des massacres.
Il y a eu des. On n'a pas reconnu en tant que génocide.
Ah si, alors ça y est,
le Rwanda, ça a été reconnu comme génocide.
Donc, non, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de. Effectivement, on
oui, c'est vrai que une des deux ethnies voulait massacrer l'autre pour qu'elle n'existe plus. Voilà. Et la logique, c'était. C'était pour qu'ils disparaissent complètement, éradiqués. Et je tiens au terme éradication. Bon, oui, mais là, bon, ce n'est qu'une aparté dans la notion de pardon. Moi, je reste à dire, je rejoins la position de Derrida qui dit qu'en fin de compte, en finalité, on ne pardonne rien.
Ah non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça, non. Ah oui, mais alors, bon, parce que, comment dire ça, la pensée d'Derrida, ici, là, par exemple, hein, c'est une pensée quand même, on peut dire, hein, ça c'est une pensée du paradoxe absolu, quoi. Et finalement, il dégage un certain nombre de, on peut dire, de fondements de notre pensée, mais qui sont des fondements qui sont des fondements sans fond, quoi. Des fondements, finalement, qui sont... des fondements absolument contradictoires, sans que ces contradictions puissent être résolues, résorbées. C'est-à-dire, c'est vraiment une pensée du paradoxe, mais le paradoxe comme constitutif, finalement, de notre pensée. Quoi. Et ce que dit ici, sur le pardon d'Derrida, c'est que il y a de pardon possible que parce que le pardon est impossible. Donc, il dit pas, il faut pas pardonner. Il dit, on peut peut-être pardonner. Mais on peut pardonner que parce que le pardon est impossible. Parce que quand le pardon est possible, quand le pardon devient simplement dans l'ordre du possible, mais il n'y a plus rien à pardonner. C'est plus du pardon.
Voilà.
J'avais dit, bon, la dernière fois, on a fait un travail sur le don, et j'avais fait une réflexion sur le désir, et c'est dire que quand ce qui est désirable est possible, quand le désir est possible, quand l'amour est possible, finalement, c'est juste non plus l'amour, quoi. Et que seulement dans l'endurance d'une sorte d'impossibilité, quand le don est possible, et ça devient un calcul. Quand il est mesuré, ça devient un calcul. Et c'est justement plus du don. Ouais. Il y a du don véritable que dans l'endurance de l'impossibilité du don, finalement. Parce que, bon, si on y réfléchit, du coup, on ne va pas pouvoir dire qu'est-ce qu'un don. Quoi. Ouais. On va pouvoir le définir, c'est au sensu. Dès lors qu'on va le définir, ailleurs, on va le mesurer, et finalement, on va manquer. Hein, ce qui fait le caractère de don. Et ben pour le pardon, oui, c'est l'idée est la même, hein, très proche. C'est que c'est vraiment parce qu'il y a l'impardonnable que du pardon est possible. Voilà. Mais il ne s'agit pas de résorber, vous voyez, l'un des termes du paradoxe, vous voyez, en disant « Ah, le pardon est possible, donc ça veut dire qu'on peut tout pardonner. » Non. Ou dire « Ah, ben c'est impardonnable, donc il n'y a pas de pardon possible. » Non, c'est justement... Voilà. C'est ça l'idée. Ouais. Bon alors, qui est développé, parce que ça fait problème, ça ouvre beaucoup d'enjeux.
Dans son œuvre plus générale, Derrida fonctionne sur. Je connais pas du tout son œuvre, c'est pour ça que je pose la question. Il fonctionne beaucoup sur une espèce d'essence philosophique du paradoxe.
Alors, ce serait pas une essence du coup, hein, mais effectivement, c'est un penseur.
Première, une, je sais pas comment
Bah, disons, il se rapporte à des... Il essaie de dégager, de penser aussi toute une histoire de la philosophie, tout un certain nombre de textes, un certain nombre de textes fondamentaux, un certain nombre de fondements, qui peuvent être aussi des fondements du droit, par exemple. Et pour par un travail de déconstruction, justement, arriver à montrer comment, loin qu'on arrive à une sorte de brique ou de socle premier absolument certain, fondé en lui-même, voilà, on est au contraire dans, ou c'est pas non plus une illusion qu'il veut dénoncer, hein, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est qu'il repère un certain nombre de fondements, parce que ça touche à peut-être à une certaine essence de la pensée, peut-être, effectivement, qui atteint la dimension de l'impossible et du paradoxe absolu, effectivement, mais un paradoxe irrésorbable, quoi. Oui, mais c'est peut-être qui, comment dire ça, c'est peut-être ce qui fait qu'on n'est pas mort, quoi. Vous voyez, si notre vie était, si on ne vivait notre vie, on n'avait de rapport à notre vie que comme à une vie possible, et qu'on déroulait notre vie uniquement dans l'ordre du possible, eh ben, au fond, ce serait vraiment une vie sans désir et on serait mort d'avance, quoi. Vous voyez, donc l'idée que c'est quand même, pour dire les choses, des choses qu'on perçoit, vous voyez, c'est peut-être que dans l'endurance d'une forme d'impossibilité, et on sait bien que c'est impossible en un sens de vivre aussi, et que c'est une question pas seulement parce que, pour des raisons, je veux dire, pragmatiques, quoi, et qu'il y a une impossibilité du désir, mais c'est vraiment l'endurance de cette impossibilité-là, la confrontation à cette impossibilité-là, qui fait la vie. C'est pas parce que la vie est une évolution, parce que ça, la vie d'un chat aussi, c'est une évolution. Alors le chat n'est pas confronté à cette question de la possibilité. Alors ça, j'ai pas suivi, je ne suis pas allé, puis vous avez des conférences en état. Mais là, comme ça, je ne vois pas de... C'est fort probable qu'il ait pensé, qu'il ait réfléchi sur le pardon, Lévinas, mais je ne vois pas de texte de grand développement, enfin c'est peut-être... Mais c'est autour de la question du pardon en particulier.
Celle-là, je n'ai pas quitté. Parce que ça a été plutôt sur l'avis de Lévinas.
Je pense que les rapports, la pensée de Lévinas à la catholicité sont des rapports qui sont des rapports. Mais ça me semble pas. La pensée de Lévinas ne me semble pas pouvoir être absorbée quand même, hein, dans la pensée chrétienne. Non, mais bien sûr, non, mais il y a des ententes et c'est une. Mais au fond, Lévinas a beaucoup nourri la pensée de Derrida aussi. Derrida a pensé avec Lévinas, lui doit beaucoup, mais en même temps il a pensé aussi d'une manière active, c'est très un certain nombre de déplacements, tout ça.
La dernière image d'un film que j'ai été voir, Être sans destin, c'est un auteur autobiographique. Vous l'avez vu ?
Imre Kertész.
Ah oui, oui.
En fin de compte, quand il sort du camp de concentration, bien qu'il veut tout oublier, il ne veut même pas accuser des. Non ?
Selon moi, il a.
Il n'oublie rien, mais il veut continuer à vivre.
La logique du pardon, j'ai pensé à lui tout à l'heure, effectivement. Il a.
Il veut continuer à vivre.
Son paradoxe à lui, c'est justement qu'il n'a pas réussi à pardonner. Il aurait bien voulu, mais il n'y arrive pas, il le dit.
Tu le dis vraiment, c'est des notes.
Moi, je le ressens.
Du livre, peut-être. Mais dans le film, c'est pas vraiment. Ça,
je sais pas,
ça ressort pas vraiment.
Je sais plus, mais
j'ai pas lu. Il est sur ma table de chevet, là, mais. J'ai pas lu. Être sans destin.
Être sans destin. Ça, c'est déjà très pessimiste. C'est vrai que, certainement.
Mais il pose effectivement la question du pardon.
Ah,
il la pose.
Parce que c'est vrai que quand on termine l'image, bon, se réinsère dans une société, bon. Où la vérité, on y est chassé. Et uniquement dans la survie, quoi. Bon, si vous me dites qu'il n'a pas pardonné, si je ne l'avais pas pris sous la notion de pardon.
Non, mais justement,
pour continuer à vivre,
il a un paradoxe en lui qui est le suivant, c'est que justement, il n'y arrive pas.
Donc, pour citer de la chance, la confrontation ultime, c'était pris dans les vies.
Avec une notion de temps aussi.
Oui, dans le temps. Mais j'ai laissé du temps. Et puis en fin de compte, il n'a pas pu sortir de cette spirale.
Il a beaucoup souffert finalement.
Oui. Bah, autour d'ailleurs aussi du fait qu'il y avait de. Non pas du pardon, mais de l'oubli au fond. Hein.
Il y
avait quand même important ça dans la vie de Primo Levi. C'est quand même.
Il était effrayé par l'oubli.
Il allait dans des classes, il allait. Et puis on commençait tout de même presque à tourner ça en dérision et à. Mais il parle de ça. Oui, parfois un petit peu. Finalement. Non, mais il a écrit jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'était un homme, et puis il a écrit toute une série de livres. Et c'est vrai que il y a des textes dans lesquels il y a tout de même cet effroi là devant le fait que finalement. Qui rencontre, c'est quand même que beaucoup de personnes ont envie de passer à autre chose, quoi, que ça le voilà.
Même actuellement.
Et donc c'est pas une ce qu'il entend bien, à mon avis, c'est pas une pensée du pardon qui se met en place, c'est de l'oubli. C'est donc du refoulement, et donc c'est pas. C'est ça qui est terrible.
Il y a quand même quelque chose qui est derrière justement l'idée de pardon, l'idée d'oubli qu'on a mentionné. Qu'est-ce qu'on met derrière l'oubli? Est-ce qu'on met l'oubli de ce qui s'est passé ou l'oubli du sentiment, enfin, vengeance ou autre, le truc qui fait vivre la pensée, quoi. Enfin, vengeance ou autre, hein. La chose qui fait mal aussi. Et justement, dans l'idée de pardon, effectivement, quand elle évoque l'idée d'oubli, enfin, dans la lecture que j'en ai, effectivement, mais moi,
parce que lui, il associe lui, pardon et oubli, c'est ça, Kertész?
Je ne l'ai pas lu ça. Je l'ai pas vu comme ça, en tout cas. C'était pas ma lecture. Mais non, mais dans ce que vous mentionniez tout à l'heure. Hein,
oui, je disais, moi, que la logique du pardon, enfin, la logique, n'est pas une logique de l'oubli, tout au contraire. Quoi. Et alors, ce que je disais là, c'est que Primo Levi. Certains, c'est qu'il souffrait terriblement dans les derniers temps de sa vie de l'oubli qui se mettait en place, du refus de la mémoire, de l'espèce de façon dont on voulait pas tellement savoir, dont on en avait marre, dont on voulait passer à autre chose, mais passer à autre chose parce qu'on ne voulait pas savoir. Bon. Mais je pense qu'il y a un débat en tout cas avec l'histoire. Je pense qu'il y a sûrement beaucoup de travail à faire autour de ça, parce que je pense que la démarche historienne, on voit bien d'ailleurs sur la question de la Shoah, tout ça, comment c'est difficile pour l'histoire, comment ça fait débat, comment c'est problématique. Parce que d'où parler
c'est une mine au sein des sciences sociales en général. Enfin, sociologie, histoire, philosophie, littérature. Enfin,
ouais.
Si je peux me permettre, c'est un étonnement négatif, quoi.
Oui, quelque chose qui fait époque, quoi, dans notre pensée. Quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Hein. Mais la possibilité même de cette pensée du pardon, finalement. Elle est signée de peut-être, enfin, elle est signée par ça,
pour que ça ne me revienne pas, pour que ça ne recommence
voilà,
pas.
Plus jamais ça,
voilà, plus jamais ça. Souviens-toi, d'accord, que ça aille exister et que ça pourrait revenir. Ça donc, sois vigilant à ça. C'est même plus
oui.
La notion de pardon.
C'est un commandement maintenant. Oui, je sais pas.
La destruction des peuples par d'autres peuples. Il y a des passes éternelles. Il faut être vigilant, mais il y a
l'histoire de l'humanité. Les destins guerriers de l'humanité, c'était supplanter
souvent la voie du plus fort.
Un empire contre un autre empire, et puis c'est tout.
C'est moins qu'à l'éclat.
On l'intégrait, on le prenait. En fait, quand on ne tuait pas tout le monde, la conquête arabe n'a pas fait table rase de tous les pays chrétiens ou de toutes les minorités. Non, il les intégrait, puis c'est tout. Ça a englobé, ça a été les conquêtes byzantines, ça a été ça. On n'a pas massacré les peuples.
Mais j'ai un peu mal avec ce discours.
On n'a pas massacré. On ne pouvait pas massacrer. D'ailleurs, les Arabes ont été les seuls à ne pas massacrer. Parce qu'ils ont reconnu
mais le dire comme ça, ça veut dire qu'on met sur un piédestal le peuple arabe, ou peu importe.
Non, mais le peuple arabe ou
autre,
les Romains, ça a été pareil.
Non, mais si on lit un peu plus profond, pardon, Derrida, il dit que les massacres entre les peuples, ça a toujours existé. Donc, je veux dire que, ça, dans son bouquin, il a dit d'emblée que ça a toujours existé, etc. Mais effectivement, là, on est dans ce qui présente à nous un cas de figure qu'on a évoqué tout à l'heure. Comme il disait, c'est quelque chose. Comment tu as dit tout négatif ton mot,
un étonnement négatif.
Un étonnement négatif, voilà. Parce que là, bon, il y a un truc.
Immensément grand.
Oui. Oui. Oui, immensément grand. C'est beaucoup de choses, quand même. C'est aussi. Cœur même de des sociétés extrêmement civilisées, extrêmement policées, extrêmement démocratique, etc. Bon. Donc c'est au cœur même de tous nos systèmes de valeurs, de notre humanisme quand même.
Il y a un sociologue qui a dit quelque chose d'extrêmement intéressant en fait là-dessus, enfin qui m'a paru extrêmement intéressant. Il disait que un peuple pour se construire de mettre, je ne sais pas si tant est que ce soit quantitatif, mais plusieurs siècles, on va dire. On a la capacité, nous les hommes, à pouvoir détruire une civilisation dans rien de temps. Le nazisme est un bel exemple, selon moi. Et justement, s'il y a des garde-fous à trouver, je pense qu'ils sont plutôt de ce côté-là en ce moment, quoi.
C'est ça.
On a une capacité d'auto-anéantissement qui est assez.
Mais oui. Oui.
Et les moyens de le faire.
Oui, tout à fait.
À grande échelle.
Bon, on va peut-être arrêter là. Hein? Ouais.